conseil, comme on dit, du Saint-Staret Silouane. Tout le monde était là la première fois que j'ai parlé de la vie de Saint-Silouane. Il y en a qui n'ont pas. Il y a quelqu'un qui est arrivé derrière. Alors, je ne renouvelle pas ce que j'ai dit la première fois. Donc, il est du siècle dernier, c'est-à-dire du XXe siècle, hein, le moine Silouane. Et il était pratiquement illettré. Il avait suivi dans sa jeunesse, je crois, deux journées d'école de son village. Et ensuite, il a été charpentier. Hein. Il s'est mis charpentier et il a continué à travailler. C'était un homme fort, de taille. Hein. Et puis, il est devenu fort en sainteté. Alors, pour ceux qui sont forts, voilà ce qui les attend.
Père Emmanuel, peut-être dire par rapport à la première conférence, la différence. La première conférence était une présentation générale de Silouane, de Saint-Silouane. La deuxième, c'est plutôt son message spirituel.
Voilà.
Celle d'aujourd'hui, c'est plutôt son message.
Voilà. J'ai donné sa vie, hein. En tant que, comme je viens de le dire, dans le monde. Hein. Et ensuite, c'est un homme qui est devenu moine, hein, assez jeune, et il est resté toute sa vie au mont Athos avec, une obédience, c'est-à-dire un service. Il s'occupait du moulin des monastères et il y avait beaucoup de moines à l'époque. Je n'ai pas le chiffre sous les yeux, c'était dans les 2000, hein, plus les les visiteurs qui étaient là, hein, 300 tous les jours. Alors il fallait faire tourner ce moulin, hein, voilà. Donc, durant toute sa vie de moine, il s'est adonné à la prière continuelle, n'est-ce pas ? Et ça lui a été donné presque dès le début où il était novice. Ensuite, il a eu des apparitions du Christ, de la Mère de Dieu, qui ont, fortifié cet homme qui, foncièrement, voulait vivre avec Dieu, n'est-ce pas ? Comme tous les moines, hein. S'ils se font moines, c'est pour quitter le monde et les soucis de famille, du travail, mais pour s'adonner à la compagnie du Seigneur, de la Divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et la compagnie des saints, n'est-ce pas ? Alors, je ne vais pas... Hein, si quelqu'un... Je peux donner certains livres, je les fais d'ailleurs, il y en a qui ont des livres sur Saint-Silouane, j'en ai encore deux ici où il y a un peu la vie et également des conseils, des petites historiettes qui nous marquent beaucoup. Hein. C'est, encore une fois, ce n'était pas un lettré, hein, un théologien, non pas du tout, hein, vous allez voir, dans les phrases qu'il nous a laissées, hein, qui sont donc des conseils, et comment c'est simple. Hein. Alors, on commence ce travail pratique. Hein. J'ai divisé un petit peu, hein, si vous avez sur les deux feuilles, conseils généraux, hein, qu'il donne. Ensuite, sur la prière, puisque c'est l'essentiel de la vie du moine, mais c'est essentiel pour nous aussi. Au dos, vous avez l'humilité, hein, le repentir, la connaissance, connaissance de Dieu, mais connaissance également intellectuelle, hein, l'amour, hein, et puis le combat spirituel. Et comment ces mots-là, qu'il a vécu, lui, dans son monastère, eh bien, ils sont pour nous aussi, hein, ils sont pour nous aussi qui vivons dans le monde. On ne va pas analyser toutes les phrases, hein, mais, par exemple, dans les conseils généraux, j'ai choisi pour vous, hein, la dernière phrase, l'Esprit Saint et la vie éternelle, il faut donner à l'Esprit Saint un grand espace dans notre âme. Est-ce que déjà quelqu'un, ça lui suggère quelque chose et voudrait dire quelque chose? Parce que moi je ne veux pas parler tout le temps, hein, travail pratique.
Ça me suggère une question plutôt, c'est-à-dire qu'on peut vivre la vie éternelle même pendant notre vie sur la terre. Si on garde l'Esprit Saint dans notre âme, la vie éternelle, c'est-à-dire on fait l'expérience de la vie éternelle,
si j'ai bien compris ce que vous disiez, la vie éternelle est déjà commencée. C'est ça que vous voulez dire aussi?
Oui.
Notre vie actuelle est déjà vie éternelle. C'est ça. Et c'est juste. Parce que nous avons l'Esprit Saint. Hein? C'est bien votre...
On peut le recevoir après un grand effort. C'est pas évident de l'avoir. C'est pas facile.
Oui.
Elle n'est pas donnée gratuitement.
La vie éternelle n'est pas donnée gratuitement, bien sûr. Mais c'est néanmoins un don. C'est un don. Ce que je voudrais dire, c'est que, pour répondre à Miraela, la vie éternelle est bien commencée. Il ne faut pas... Hein, parce que nous venons de célébrer les mystères sacramentels, n'est-ce pas, qui sont déjà nourriture d'éternité. Notre prière aussi est bien communion avec Dieu vivant et vrai. Même si cette vie actuelle que nous menons n'est pas parfaite, elle est déjà les prémices de la vie future. Et cela depuis notre baptême qui nous a plongé dans la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me mets dans un niveau de foi et non pas dans un niveau de mérite. Dites.
C'est vrai, justement, je pensais que d'habitude notre âme est remplie par le souci de la vie.
Oui.
Plutôt pour sentir cette vie éternelle, on doit laisser à côté un peu le souci de la vie et peut-être on peut retrouver l'éternité de l'Esprit Saint.
Oui.
Ça sera une bonne expérience.
Oui, je crois que c'est précisément, vous venez de le dire, c'est une expérience que chacun de nous doit faire. Disons essentiellement, tel que je le vois moi, dans la vie ici à l'Église, par la liturgie, n'est-ce pas, encore une fois, où nous sont donnés le corps et le sang du Christ ressuscité. Ressuscité, il est éternellement vivant. Et nous, eh bien, peu à peu, nous nous emplissons de cette vie. Et lorsque nous célébrons, les anges et les saints, invisiblement, nous le chantons au chérubicon, sont invisiblement présents au milieu de nous, n'est-ce pas? Et le Christ est invisible. C'est une question de foi. C'est bien votre avis. La vie, et s'il y a un lieu où la vie éternelle est commencée, si la vie éternelle vit, c'est bien dans l'Église. Et ensuite, et nous le verrons un petit peu plus loin, par la prière, et la prière, c'est partout.
La vie éternelle, ce n'est pas qu'une chose qui on le commence à partir de notre mort. Par contre, si on le commence pas à partir de notre vie.
Nous sommes actuellement
dans la vie éternelle.
Ou alors, les paroles évangéliques ne tiennent pas debout. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il n'est pas dit aura la vie, la vie éternelle. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Il n'est pas dit aura. Je crois qu'il faut restaurer les choses comme il faut. La vie éternelle, nous l'expérimentons dans l'Église, donc, je répète, à travers la liturgie, c'est bien votre avis, hein. Et puis, tous les sacrements, le baptême, n'est-ce pas, l'onction du crème, la confession, etc., hein. Pourquoi cela? Parce que nous sommes mis en relation avec la divine Trinité, notamment au baptême. Hein? L'enfant un tel ou un tel est baptisé au nom du Père, du Fils. On est plongé, baptême, baptizo, plongé, n'est-ce pas, dans la vie de la divine Trinité. Et lorsque nous communions, il en est de même. On ne communie pas que au corps, au Christ, mais par lui, au Père et à l'Esprit, n'est-ce pas? Bon, c'est le béaba de la théologie.
Père, pour revenir sur la phrase, il faut donner l'Esprit Saint un grand espace dans notre âme.
Ah oui.
Et par rapport à ce que Dieu signifie, la façon dont on associe l'Esprit Saint,
oui,
lui faire de l'espace,
oui,
c'est lui aussi qui donne de l'espace.
Oui.
En tout cas, on met en balance l'Esprit Saint. Et l'espace avec l'encombrement, ce que disait Michael,
voilà,
l'encombrement de
tout
nous.
Tout à fait.
Que l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui donne du souffle et de l'espace.
Exactement.
Le
exactement.
Le mouvement, c'est du souffle. Et on sent aussi, hein, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a aussi un peu tous les icasmes qui est derrière. Parce que comment est-ce qu'on donne cet espace? Par la respiration, par le souffle. Comment est-ce qu'on désencombre l'âme? C'est très concret dans l'approche de Saint-Silouan, non?
Tout à fait. Tout à fait. Et Saint-Silouan était, bon, si vous voyez, de toute façon, en voyant les phrases, il disait toujours, oui, on connaît Dieu, mais par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné de connaître ceci, de connaître cela. Et pour lui, c'était vraiment l'animateur de toute sa vie. J'ai un petit peu l'habitude de comparer l'Esprit Saint qui est dans l'Église, n'est-ce pas, pousse l'Église, au vent qui pousse le bateau qui est l'Église sur les eaux, n'est-ce pas, hein. C'est lui vraiment, l'Esprit Saint, qui est l'animateur. J'allais dire Le Christ s'est comparé à la tête du corps, le corps qui est l'Église, nous-mêmes, les membres. Et je comparerai, ce n'est pas dit dans saint Paul, hein, et ne le mettez pas non plus sur l'Esprit Saint au sang qui circule dans les membres, voyez, et qui vivifie. On parle souvent de l'esprit vivificateur. Voyez.
C'est-à-dire que si nous faisons un peu d'effort, c'est l'Esprit Saint aussi. Si nous faisons un peu d'effort de chercher l'Esprit Saint, c'est lui aussi qui vient et remplit notre effort et nous aide et nous agrandit l'espace de notre âme.
Tout à fait. Tout à fait. Et je me souviens, lors d'une catéchèse ou d'un entretien que j'avais avec quelqu'un, j'ai l'habitude de dire, à partir de la Pentecôte, vous savez qu'il y a le temps entre Pâques et Pentecôte, où on ne dit pas la prière « Roi céleste, consolateur, esprit de vérité ». Tout le monde me comprend, oui. Et précisément pour être dans cette attente de l'Esprit Saint au moment de la Pentecôte. Hein, voyez, on ne dit pas pour mieux dire. Et après, on peut la dire. Et je disais dans un entretien, comme j'avais, et une personne me dit, mais on ne peut pas dire plus d'une fois par jour, Roi céleste. J'ai dit, mais comment? Mais à tout bout de champ, si vous le pouvez, c'est lui qui est le moteur de notre vie spirituelle, mais également matérielle. Vous voyez ? C'est saint Paul, hein, c'est lui, l'Esprit Saint, qui se joint à notre esprit au moment de la prière. Il ne faut pas considérer l'Esprit Saint comme un objet. Hein. Je t'ai prié, attends, je t'écoute. Voyez, non, il nous faut être plein de ferveur, notre cœur, plein de foi. Donc c'est une expérience. Aimer l'Esprit Saint, et puis j'allais dire l'appeler, en sachant que c'est un donateur de vie, comme on dit. Il donne. Qu'il y a autre chose à quoi vous ferez penser cette, il faut donner un grand espace à notre. Alors, j'ai préparé un tout petit peu. Hein. Et on a un évêque en France, il s'appelait Saint-Irénée de Lyon, hein, c'était en l'an 177. Il disait : Où est l'Église ? Là, où est l'Église ? Là est aussi l'Esprit de Dieu. Et où est l'Esprit de Dieu ? Là est l'Église et toute grâce. L'Esprit, c'est la vérité. Alors, autre chose, toujours chez saint Irénée, vous allez voir pourquoi je prends cette phrase, parce que moi je me sers également de mots qui me frappent pour m'aider dans ma vie spirituelle. Il parle, saint Irénée, de la prédication. Il y a tout un livre qu'il a fait, pas épais, comme ça, démonstration de la prédication apostolique. Ça vaut son pesant d'or. J'en extrais une phrase. Ce don de Dieu, la prédication, vous voyez, la prédication est un don de Dieu. Quand les prêtres, hein, ils ne savent même pas eux-mêmes que c'est un don de Dieu. Ce don de Dieu a été confié à l'Église, comme le souffle à la créature. Et vous savez que l'Esprit Saint, Esprit Roi, en hébreu, c'est un souffle. En lui, l'Esprit Saint, se trouve la communication au Christ, le gage d'incorruptibilité, la confirmation de notre foi en lui, l'Esprit Saint, et l'échelle de notre ascension vers Dieu. Et c'est ce sont ces derniers mots qui sont pour moi comme un barreau d'échelle qui me disent, oui, utilise. Non, j'allais prendre un mot tout à fait matériel. Que l'Esprit Saint soit pour toi un barreau vers l'ascension vers Dieu. Voyez ? Vie éternelle et sainteté sont unis. Nous vivons déjà dans la vie éternelle et nous essayons tant bien que mal, par quelques efforts bien sûr, de nous mettre dans une vie toujours plus sainte, n'est-ce pas ? Sachant que ce n'est pas nos efforts, pour revenir un peu au début, qui conditionnent notre sainteté.
J'ai une question pour vous. Vous avez dit que l'Esprit Saint se trouve dans l'Église, et là où se trouve l'Esprit Saint, ça veut dire que c'est l'Église. Est-ce que j'ai bien compris ?
Et oui, c'est Saint-Irénée, vous voyez. Où est l'Église ? Là est aussi l'Esprit de Dieu. Et où est l'Esprit de Dieu ? Là est l'Église et toute grâce.
D'accord. Donc ça veut dire que si l'Esprit Saint se trouve en nous, est-ce qu'on peut dire que l'Église peut être, par exemple, chez nous, à la maison, de nos amis,
mais bien sûr, lorsque vous priez chez vous, vous voyez, vous dites « Notre Père », vous ne dites pas « Mon Père » chez vous, « Notre Père », comme nous le faisons ici. Hein. Et donc, tout foyer, tout cœur chrétien qui se met en prière est uni à tous ses frères, hein,
oui, où qu'ils soient. Plutôt, j'aimerais me focaliser sur le concept d'église. Qu'est-ce que ça veut dire, église ?
Ben, l'église, nous allons y arriver un tout petit peu après. L'église, vous le voyez bien, le mot église, ecclesia, a comme racine appelé kaleo en grec. Et ce sont ceux qui sont appelés précisément, pas comme hein, vous n'avez pas été ce matin appelé au micro, hein. Non, c'est précisément l'Esprit Saint qui a parlé à votre cœur et qui a dit, mais il faut que tu ailles, d'autres sont appelés et ensemble, eh bien, vous allez prier. C'est essentiellement, c'est un rassemblement de croyants.
Donc ça veut dire que c'est pas nécessairement lié à un bâtiment d'une certaine façon. Par exemple, si chez moi j'invite plusieurs copains, on peut prier ensemble devant une icône, c'est toujours une icône.
Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Christ, hein, c'est lui la tête et c'est du corps. Hein. Et ce corps, c'est l'Église. Et donc, si vous avez la tête, fatalement, vous n'avez pas un corps sans tête. Voyez ce que je veux dire. Soyons tout à fait logiques. Est-ce que on peut passer à un autre...
Mais la meilleure Église de Dieu, c'est l'homme, c'est l'âme.
Et ça y est, écrit quelque part.
Hein? L'avant-avant-dernier chapitre.
Les églises nous sont données pour la prière. Dans les églises, on célèbre les offices, oui, selon les livres liturgiques.
Oui, alors, puisqu'on aborde ça et qu'on ne va pas... c'est vrai, cette phrase m'a paru très très belle. Hein, parce que, bon, c'est vrai que quand on sort, on ferme la porte. Avec foi, nous faisons bien le signe de la croix. Hein, mais après, on est livré à soi-même. Hein. C'est où cette phrase ?
C'est la première page.
Sur la prière.
Ah oui, les églises nous sont données pour la prière. Eh oui, ben oui. C'est une Oui. Dans les églises, on célèbre les offices selon les livres liturgiques. Et Raphaël, Samuel savent très bien qu'il y en a beaucoup, hein, qu'il faut jongler. Et encore, par-dessus le marché, il y a deux langues, ce qui ne facilite pas les choses. Mais tu ne peux emporter l'église avec toi. Et tu n'as pas toujours des livres chez toi. Hein, tandis que la prière intérieure est toujours et partout avec toi. La meilleure église de Dieu, c'est l'âme. Et ça répond, hein, vous qui recherchez des...
Mais d'un autre côté, moi, mon sentiment, c'est qu'on a besoin de faire des allers-retours. On a besoin d'être seul, et on a tout dans son âme, mais on a besoin des autres en permanence pour se raccrocher à quelque chose.
Tout à fait.
Et pour communier tous ensemble.
Tout à fait. Tout à fait.
Sinon, on s'isole si on fait la prière tous les dimanches tout seul, toute la semaine.
Tout à fait. Tout à
ça s'égrène et puis on retrouve, il n'y a que la vie qui reprend le dessus, quoi, la vie quotidienne.
Donc la communion peut se faire que dans une église comme celle-ci.
Vous parlez de la communion.
La communion, la sainte liturgie et la communion avec Saint-Esprit.
La liturgie peut être aussi. Peut-être même qu'au premier temps de la fondation ici, non, ça n'a pas été dans un appartement, mais c'est très souvent que c'est dans un appartement que ça se passe. Hein.
Tu parlais des murs.
C'est pas les murs qui comptent.
C'est pas les murs qui comptent.
C'est pas les murs qui comptent. C'est l'assemblée qui compte. Les gens,
les personnes. Et aussi, en fait, parce qu'on a eu un débat en ce moment par rapport à la simplicité, au besoin d'avoir beaucoup de richesses dans une église, beaucoup d'écoles, beaucoup de choses qui montrent la richesse. Moi, je suis d'avis que c'est le contraire. Il faut avoir le plus simple possible. En fait, c'est pas la richesse qui montre.
Alors, les icônes ne sont pas là pour montrer la richesse.
Non,
c'est pas la fonction de l'icône du tout. Pardon, si je peux me permettre.
Non, je ne parle pas d'une église. Je ne parle pas que des icônes. Je parle de la richesse en général de l'église.
Non, je pense que nous ne tombons pas ici dans ce travers. Si nous avons quelques icônes que nous avons fait faire et écrire, eh bien, c'est tout à fait nécessaire. Bon, vous voyez, il y a peu d'ornements. Les calices ne sont pas beaucoup dorés, hein, c'est plutôt... voyez...
Je parlais du principe, pas seulement de cette église, du principe de la richesse dans une église.
Oui, la richesse, vous voulez dire qu'on commande toujours de l'argent ?
Non, mais tout ce qui est, par exemple, il y a des églises qui sont en fait dorées en or,
oui.
Par exemple, on parle beaucoup de ça.
Oui, mais même peut-être en Roumanie, non ?
Oui.
Alors, moi, il m'a été fait cette réponse-là. Lorsque, bon, tout de même, l'Église, c'est le ciel sur la terre. Et il... Comment dire ? Si, extérieurement, pour parler des prêtres, s'ils sont revêtus d'ornements un peu riches, c'est pour manifester extérieurement la richesse de Dieu à notre égard. Si nous utilisons beaucoup de vases sacrés, dorés, etc., c'est tout cela en rapport avec Dieu qui est riche en miséricorde pour nous. Et c'est pour nous manifester cela. Tout est symbolique dans l'Église, mais il ne faut pas s'attacher, il faut aller au-delà de notre regard matériel. Tout est symbolique dans l'Église. Par exemple, lorsque les servants qui devraient porter une tenue, hein, on ne rentre pas dans le sanctuaire avec un complet veston, n'est-ce pas ? Et la cravate. Vous ne voyez pas les prêtres célébrer en complet veston et en cravate. Si on s'habille, c'est parce que, eh bien, nous côtoyons les choses divines. Lorsque j'en reviens au servant qui, vous voyez, quand il n'y en a qu'un, il porte un cierge, lorsque le prêtre sort l'évangélière, l'évangélière représente le Christ, et le servant est devant, et il vous dit à l'aide, c'est un symbole, à l'aide de son cierge. Ne regardez pas moi, ni le cierge. Regardez celui que je précède, qui est le Christ. Que porte. Et les vêtements, c'est la même chose. Nous nous revêtons de beaux vêtements pour manifester la richesse de la grâce à notre égard. Vous voyez comment ? Et effectivement, nous utilisons de l'argent matériel que nous gagnons, que nous ne volons pas. Mêlant ainsi notre vie matérielle et notre vie éternelle. Nous faisons passer le matériel dans le spirituel. Il en est de même du pain, Miraela, qui est très bon, pain et vin, qui sont transformés en corps et sang du Christ. Et reconnaissez-le, jusqu'au bout, à notre regard, à notre goût, il reste pain et vin. C'est notre foi, encore une fois. Et de même, lorsque nous voyons un évêque avec un bâton, il y a peut-être un peu d'or. C'est pour nous signifier que, il ne faut pas regarder à cet or matériel, mais à la vie en Dieu qui nous est communiquée dans le moment présent. Pas plus tard, mais...
Il est possible que si on rencontre le même évêque pendant la semaine, il est habillé très simple et dans sa maison, il a...
Mais bien sûr, très simple, je suis... Vous me verrez avec une chemise Bordeaux, etc. Mais certains me reconnaissent et viennent. Et je suis. Lorsque j'étais dans le milieu slave, donc russe, là aussi, le prêtre était considéré, l'évêque, bien sûr, mais le prêtre, puisque. Le prêtre n'est que le représentant de l'évêque, le délégué, comme on dit, de l'évêque. Et vous continuez dans la tradition roumaine de venir demander au prêtre la bénédiction divine, n'est-ce pas ? Il y a des paroisses, je ne parle pas des catholiques, n'est-ce pas ? Je n'ai aucun grief, mais des paroisses orthodoxes qui... n'ont pas ce sens de la paternité du prêtre, n'est-ce pas ? La paternité qu'ils tiennent de l'évêque, bien sûr. Et l'évêque la tient du Christ. Et c'est dommage, parce que immédiatement, lorsque vous voyez un prêtre vous avancer vers lui, eh bien, vous venez demander la bénédiction. C'est pas... C'est ce dont il est porteur, n'est-ce pas ? Ça peut être le prêtre, un fieffé coquin. Voyez, ça n'empêche pas que la bénédiction, elle repose sur lui, par l'ordination. Voilà. Et même s'il est en complet veston, pas à l'hôtel, mais dans la rue, il transmet. Voilà. Alors, au sujet de cette prière qui nous poursuit chez nous, la meilleure église de Dieu, c'est l'âme, je vous rappelle une histoire. Peut-être l'ai-je racontée, mais peut-être pas. Saint Silouane, c'est son nom de moine. Il s'appelait dans le civil Siméon. Alors, un beau jour, le père de Siméon, qui était un homme très religieux, invite un marchand ambulant à manger à sa table. Et il se disait, ce marchand ambulant voyage beaucoup, il a beaucoup entendu, peut-être il va m'apprendre quelque chose, et la conversation arrive sur Dieu. Et Siméon, qui n'était pas très grand, il écoutait, et l'homme cherchait à prouver que le Christ, le marchand ambulant, cherchait à prouver que le Christ n'était pas Dieu, et que même Dieu n'existait pas. Et ces paroles frappèrent l'enfant Siméon. Hein. Et il dit à son père, après le départ du marchand, « Père, quand je serai grand, j'irai chercher Dieu sur toute la terre. Tu m'apprends à prier Dieu. » Et l'autre dit que Dieu n'existe pas. Moi, je veux aller voir s'il existe. Alors, devenu un peu plus grand, Siméon, il s'était engagé, comme je l'ai dit, comme charpentier. Et c'était une femme de la campagne qui faisait le repas des ouvriers. Et elle racontait qu'elle allait en pèlerinage sur le tombeau d'un moine, un reclus, qui était considéré par tout le monde comme un saint, et des miracles se produisaient sur la tombe de ce moine. Et la dame disait que c'était un saint, comme tout le monde le pensait autour d'elle. Alors le jeune Siméon réfléchit, s'il est saint, c'est que Dieu est avec nous, alors je n'ai plus besoin d'aller parcourir la terre pour le trouver. Alors, je retiendrai deux choses de cette histoire. Nous prions Dieu, et nous le prions avec ferveur, mais est-ce que c'est un Dieu vivant, un Dieu vrai, ou alors est-ce que c'est, selon que le dit le psaume, une statue de plâtre? Voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est avec notre cœur? Est-ce que nous considérons que c'est une personne vivante? Trois personnes vivantes? Est-ce que nous essayons de croire avec tout notre cœur qu'il est vivant? Voyez?
Que de sentir. L'exercice ou la pratique, c'est toujours.
Je n'ai pas dit sentir, hein, j'ai dit croire. Voilà. Et cette histoire nous montre que Dieu n'est pas un Dieu qu'on irait chercher lointain, mais un Dieu qui est proche de nous, qu'il est, selon notre foi, avec nous. Et en nous, hein, et notamment lorsque deux ou trois, j'y reviens, sont réunis en mon nom, je suis un des deux, mais et lorsque on se réunit devant une icône, chez soi, dans sa maison, eh bien, il est au milieu de nous, et c'est déjà l'Église. Donc nous transportons l'Église partout où nous allons. Est-ce que j'ai répondu, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour voilà. Voilà, par la prière, c'est la dernière phrase de cette première page, par la prière, on parvient à Dieu. Hein. Alors, évidemment, ce n'est pas du premier coup que notre prière, hein, et ce n'est pas du domaine du sentir, mais c'est du domaine de la foi. Hein, je reviens un petit peu, et la foi, on ne la touche pas. Hein? Je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Vous savez, je dirais, on expérimente. Dieu s'expérimente. Et les couples qui sont là, n'est-ce pas, peuvent dire ce que c'est que s'aimer l'un l'autre. Définition de l'amour, c'est des volumes, hein. Et de même, si on parlait de la prière, mais des volumes entiers, on fait faire l'expérience. Et plus on fait cette expérience d'aimer Dieu, et prier est une... Eh bien, et plus on sent en soi, précisément par l'Esprit Saint, je le crois, on sent qu'il faut... Hein, j'allais dire, c'est comme un puits, on amorce un petit peu par... On commence, hein, gloire à toi notre Dieu, gloire à toi, on le dit médiocrement, et puis, comme quand on amorce, le puits, et puis l'eau coule, voyez, l'eau coule. On ne sait pas d'où elle vient exactement, mais vous avez fait un petit effort. Pas. Voilà comment je vois le début de la prière. Et puis, bon, on a soif, hein, on voit cette eau, hein, on a soif comme la Samaritaine, n'est-ce pas? Et que nous fêterons dimanche prochain, je crois. Et on a soif de cette eau, on pompe encore un peu et on boit. Voilà. On va essayer de tourner la page, mais je ne sais pas, peut-être que nous dépassons beaucoup là et que vous en avez marre. Non ? Bon, alors, vous savez, il y a deux mots à derrière, à la page, au verso, les mots d'humilité, de repentir, je ne suis pas très fort là-dedans. Alors, ça peut nous être... Mais je n'ai pas bien expérimenté ce que c'était que l'humilité. Alors, je ne peux pas tellement, voyez, en parler. Et le repentir encore. Bon, c'est vrai. Mais si quelqu'un voyait une phrase qui le pique intérieurement, eh bien, on peut, hein, on peut s'y pencher un petit peu. Et voilà. Alors, par contre, s'il n'y a personne qui nous dit qu'il a reçu une inspiration de l'Esprit Saint, j'avais trouvé au chapitre de la connaissance, c'est-à-dire tout en bas de la page, hein, quelque chose qui m'avait piqué un petit peu. Je dis piqué, inspiré, voyez. C'est l'orgueil qui empêche d'avoir la foi. L'homme orgueilleux veut tout comprendre par son intelligence et par sa science. Mais il ne lui est pas donné de connaître Dieu, parce que le Seigneur ne se révèle qu'aux âmes humbles. Aux âmes humbles, le Seigneur montre ses œuvres qui sont incompréhensibles pour notre entendement, mais qui sont révélées par le Saint-Esprit. Voyez, beaucoup de choses là-dedans, hein. Ce n'est pas notre intelligence, notre science qui nous permet de comprendre Dieu. Les œuvres de Dieu sont incompréhensibles pour notre entendement humain. Elles sont révélées par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dès que nous arriverons à Pentecôte tous les jours, disons « Roi céleste et à tout bout de champ », pour que, précisément, le Saint-Esprit nous révèle les mystères divins. Mystère. Et la prière est un mystère, voyez. L'amour est un mystère, l'amour de Dieu est un mystère, hein, etc. La liturgie, Est-ce que je comprends, moi, prêtre, ce que je fais à l'autel? Est-ce que je le comprends foncièrement, au fond? Non. Et même si j'avais lu et relu les sommes théologiques, non, c'est précisément l'expérience, mais la révélation intérieure de l'Esprit Saint. Je le crois. La vraie connaissance, c'est celle que nous donne l'Esprit Saint à l'intérieur de nous-mêmes.
C'est bien clair pour moi qu'on doit être humble, par rapport à la connaissance de Dieu, par rapport à ce qu'on peut connaître ou apprendre sur Dieu. Mais dans la vie générale, parfois il est possible d'avoir une tendance de soi toujours humble. Et de nous culpabiliser tous les jours pour certaines choses, de nous considérer les plus petites, de considérer que toujours on fait des erreurs. C'est bien cette attitude ou c'est pas la vraie humilité?
Dans la mesure où vous pensez ce que vous venez de dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce que dit Saint-Silouane, que de nous-mêmes, nous ne sommes pas grand-chose, et cependant beaucoup, mais que nous nous considérons comme petits, vraiment devant les mystères de Dieu et tout ce qui est mystère, la prière, la grâce en nous, la vie divine qui circule en nous, mais qui circule entre nous, n'est-ce pas? Il vaut mieux l'expérimenter, je veux dire, et se faire petit devant cela et dire merci Seigneur de nous faire vivre de ta vie, parce que ce qui passe autour de nous, ce courant de vie divine, n'est-ce pas, cette vie de frères et sœurs, eh bien nous n'avons qu'à nous incliner, merci Seigneur de nous le donner. C'est là le don, un don de Dieu. Hein. Également, c'est cet appétit que nous avons de mieux comprendre, sachant que, eh bien, nous n'arriverons pas à la pleine connaissance ici, sur Terre. Et ce que nous pouvons savoir est bien peu de choses. Même après avoir lu un tas de livres, si on n'expérimente pas, c'est-à-dire si dans la prière, dans la liturgie, dans la vie courante de relations, de services, etc., si on n'expérimente pas la vie de Dieu, ce sang divin qui coule dans nos veines, eh bien, c'est l'être morte. Voilà. Le reconnaître, Dieu est plus grand que toutes nos connaissances. Vous voyez? Et c'est un père ascète. Vous allez me dire qui c'est, parce que je mélange toujours un petit peu. Et théologien, celui qui prie. Hein? C'est un, Ça a été dit par plusieurs pères ascètes et théologiens, celui qui prie. Et théologien, ce n'est pas celui qui peut vous débiter sur les relations à l'intérieur de la divine Trinité entre le Père, le Fils, l'Esprit. Qui peut, il y en a des livres, mais qui vous dit, moi, je ne sais pas. Vous voyez ? C'est ça, être petit véritablement. Hein ? La connaissance, une connaissance donc non pas intellectuelle, mais par l'expérience. Deux époux se connaissent. Ils ne se sont pas analysés dans les profondeurs de leur généalogie, etc. Non, ils vivent ensemble. Hein, là. Alors, j'ai relevé une petite historiette qui, peut-être, va vous orienter un petit peu. C'est le Starets. Le Starets qui priait ainsi au Saint-Esprit. Vous voyez comment sa foi en l'Esprit-Saint, au troisième personne de la Sainte Trinité, au Saint-Esprit, tu m'as révélé un mystère insondable. Il ne dit pas lequel, voyez. Alors, son entourage lui disait, dévoile-nous le mystère que le Saint-Esprit t'a donné de connaître. Et la réponse du Starets, le Saint-Esprit, d'une manière invisible, donne la connaissance à l'âme. Il m'a donné de connaître le Seigneur, mon Créateur. Il m'a donné de connaître combien le Seigneur nous aime. Expliquer cela n'est pas possible. Voyez, c'est ça, la petitesse. Et combien grande était l'âme du Saint. Voyez, est-ce que je réponds un petit peu à votre histoire d'humilité, de petitesse, voyez. Merci Seigneur, tu m'as donné de connaître tes mystères insondables, mais je ne peux pas l'expliquer.
Ouais, c'est-à-dire qu'on doit remercier, on doit être content si on reçoit quelque chose, si on a une qualité. Oui. On ne doit pas nier la qualité, mais par contre, on doit remercier à Dieu pour ça.
Tout à fait. Tu m'as donné de connaître. Et il nous donne de connaître suffisamment pour la marche de notre vie spirituelle. Vous voyez, et de cela, je crois que ce qui nous est donné de vivre dans la liturgie, d'abord, dans les catéchèses, dans la prière, dans les sacrements, hein, et puis dans la vie fraternelle que nous avons entre nous et avec les autres, c'est déjà merveilleux si nous disons que le Seigneur est avec nous. Voyez ? Si nous croyons que la vie éternelle est déjà commencée. Il n'est pas trop tard.
Ça commence à
bien faire. Voilà.
On approche de la fin.
La parole d'un enfant. Écoutez, vous gardez ces feuilles, vous les avez. Moi, j'avais prévu au sujet de c'est la troisième page, au sujet de l'amour, la grâce c'est la deuxième phrase sur l'amour. La grâce vient de l'amour pour notre frère, et c'est par l'amour pour notre frère qu'on la garde. Vous l'aviez jamais entendu, ça. Tu aimes ton frère, tu gardes la grâce. Tu es ton frère, tu perds la grâce. Alors, aimer, ben on ne va pas faire des tonnes de livres sur l'amour. Hein. L'amour est service. Hein. Et don gratuit de Dieu. Et alors, après, la dernière phrase, alors, vous voyez, à la fin de la phrase, à la fin de la page, si tu fais du bien à ton frère, alors tu trouveras la tranquillité de ta conscience. Vous voyez comment le frère est vraiment un nœud dans notre vie. Hein? Et tout homme est notre frère. Et toute femme est notre sœur. Alors, après, j'avais, dans le combat spirituel, j'avais pris « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Je ne sais pas si ça y est, ça.
Oui, quatrième. Je dis « Seigneur, dis-moi ce que je dois faire pour que mon âme devienne humble ».
Ah, oui.
Le Seigneur répond, tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas.
Ah oui. Alors, vous savez, il a eu donc, il se prosternait, il était dans sa cellule, hein, le moine Silouane, et il faisait ses métanies, et les démons, il était devant les icônes, hein, et les démons étaient là, s'interposant entre lui et l'icône, attendant bien sûr qu'il se prosterne. Et Silouane, quand même, en avait ras-le-bol. Hein, et il dit au Seigneur, tu vois que je veux te prier avec un esprit pur, mais les démons m'en empêchent. Dis-moi ce que je dois faire pour qu'ils s'écartent de moi. Et je reçus dans mon âme cette réponse du Seigneur, les orgueilleux ont toujours à souffrir de la part des démons. Je dis, Seigneur, tu es miséricordieux, mon âme te connaît, dis-moi ce que je dois faire pour que mon âme devienne humble. Et le Seigneur me répondit, tiens ton esprit en enfer, et ne désespère pas. Deux mots là-dessus, et on part. Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. Bien sûr que dans un premier temps, si vous voulez, un premier niveau, c'est un engagement à tenir bon. Tiens ton esprit en enfer. Tiens, même si tu as une grande souffrance, si tu es dans le malheur, le désespoir, mais ça, c'est un niveau insuffisant, voyez. Il faut aller à un niveau supérieur, et c'est comme ça que Silouane l'a compris. Tenir son esprit en enfer, c'est le tenir dans le repentir. Hein? C'est-à-dire se repentir, mais comme il faut, pas que des lèvres ou du corps, mais avec tout son cœur. Et ça, lutter contre l'orgueil, lutter contre les passions, et Dieu sait si nous en avons. Alors, le mot « enfer », tiens ton esprit en enfer. L'enfer n'est pas un lieu géographique. De même que la vie éternelle n'est pas pour après. Oui, mais dès maintenant. L'enfer est un état spirituel. Et un père de l'Église dit, c'est une brûlure de la conscience. L'enfer, c'est l'âme séparée de Dieu par le péché. Et plus On grimpe dans l'amitié de Dieu, plus les péchés, comment dire, l'âme s'affine, voyez, et ce que l'on considérait comme petit péché, hein, à ce niveau, plus l'âme s'affine, plus ici une simple pensée peut être gros péché, voyez, hein. Donc l'enfer, c'est être hors de la lumière de Dieu. Cette lumière peut être, j'allais dire, tamisée par gros, hein, moyen, vous voyez. Lumière grise et voilà. L'enfer, c'est lorsque nous nous fermons à Dieu. Lorsque notre âme est pleine de passions qui évacuent Dieu de notre âme. Et pour y remédier, c'est la prière. Et une prière, encore une fois, humble, comme le fait Silouane, hein. Tu vois bien que mon âme t'aime. Aide-moi. Pensez que un jour, dans la vie éternelle, n'est-ce pas ? Mais commençons là dès maintenant, cette vie éternelle, nous serons sous les feux de l'amour, le grand, avec un grand A, n'est-ce pas ? Et nous serons face à face avec Dieu, mais vraiment face à face. Là, nous sommes face à face, mais dans la foi, n'est-ce pas ? Nous sommes face à face avec notre Dieu, mais dans la foi. Un jour, nous y serons, vraiment, face à face. Et donc, j'emprunte à saint Isaac, le Syrien, ce que je vais vous dire. Donc, nous serons devant la face de Dieu, et cette rencontre avec Dieu sera vécue comme le prolongement de notre vie d'ici-bas. Vous voyez, je rejoins la vie éternelle dont nous parlions tout à fait au début. Et elle sera vécue comme donc le prolongement de notre vie ici-bas si nous avons utilisé le temps terrestre pour purifier notre être et l'illuminer par la grâce. Vous voyez ? Ou bien, alors, cette rencontre sera le début d'une souffrance, disons, infernale, hein, si encore nous sommes pétris de ténèbres. Donc, commençons tout de suite à faire ce travail donc, intérieur, hein, et c'est vraiment un combat. C'est vraiment... Mais je vous laisse, n'est-ce pas ? Je vous laisse d'abord sur cette dernière phrase, hein. Tenons notre esprit en enfer, mais sachant que ce n'est pas l'enfer que nous voulons, mais que c'est la face de Dieu pour nous illuminer. Alors,
oui. Sur cette phrase, justement, est-ce qu'on peut l'interpréter comme je la lis ? C'est-à-dire, tiens ton esprit en enfer, il y a l'esprit, d'abord il dit bien l'esprit, il dit pas ton âme, il dit pas ta foi, ton esprit te tient en enfer. Et l'enfer, j'allais dire, c'est le monde, c'est celui qui nous assaille au quotidien et qui nous empêche d'être humble, qui nous empêche d'être serein. Et donc rien que prendre conscience que notre esprit, et donc celui qui nous sert au quotidien pour notre vie, il est en enfer en permanence. C'est une façon de dire, j'ai bien conscience que c'est mon esprit qui est en enfer en tout moment, mais que pour ma foi, pour mon âme, je peux tout faire pour que je rejoigne tout doucement la vie éternelle et une autre façon de me comporter.
Oui, mais moi je ne dissocie pas le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, bien sûr, mais mon corps aussi est dans les ténèbres, dans les passions, autant que mon âme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est tout mon être que je souhaite faire parvenir peu à peu par la liturgie, la prière, la vie fraternelle, etc., tout ce que nous avons dit, à l'illumination. Pensant, en vous disant illumination, à ce moment de la transfiguration du Christ au Tabor, par exemple, voyez, petit à petit. Saint-Séraphin de Sarov.
J'entends ce que vous dites, Palette, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quand même l'idée qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est complètement au-delà de la corruption, qui est incorruptible. Sans dissocier, sans morceler le corps aux humains, mais dire que, bien sûr, corps, âme, esprit, mais oui. cette idée de ce réalisme du christianisme, c'est-à-dire qu'on assume la réalité et on est face aux passions, on ne les nie pas. Si on peut le faire, c'est bien parce qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose d'incorruptible qui est venu avec le baptême.
Ah ben, bien sûr. Mais ça c'est je pense que vous l'avez tous... Mais là, tout saisi.
Plus profond de l'enfer, le plus noir, c'est toujours aussi présent puisque le Christ est descendu, déjà.
Oui.
Donc, ce qu'il y a de plus noir et de plus obscur.
Par le baptême, nous avons reçu l'icône, l'image, n'est-ce pas, de la Trinité Sainte. Et précisément, notre effort, petit effort, c'est de marcher vers la ressemblance de Dieu trinitaire.
C'est pour ça que dans le christianisme, il y a quand on parle d'espérance, parfois les gens qui ne sont pas trop habitués avec la tradition chrétienne, oui, l'espérance, c'est ça, vous espérez. Mais dans le christianisme, c'est un optimisme ontologique. C'est-à-dire que dans le monde, c'est une joie incroyable de se dire que même au fond de l'enfer, ça n'est pas touché. Et on est le Christ qui nous l'a donné, et on peut s'y raccrocher. Ça n'est pas touché, c'est incorruptible.
Bien sûr que le monde aujourd'hui essaye de tuer même ce qui en nous est éternel. Je ne trouve pas les mots, vous voyez, qui sont déjà du domaine de l'éternel. Et ce qu'il nous faut développer le plus, ce que nous faisons à travers l'Église, à travers les relations ecclésiales, mais que nous essayons également de transporter dans notre entourage, entre guillemets, profane, c'est ces semences d'éternité, n'est-ce pas, que nous puisons ici dans l'Église. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde.
Amen.
Merci beaucoup.
Irsos. Inviat. Christ est ressuscité. Et disons-le autour de nous. En disant cela, Christ est ressuscité précisément, eh bien, nous faisons appel à ces semences qu'il y a dans chacun de nous, et nous en sommes conscients. Mais il y en a qui ont ces mêmes semences et qui n'en sont pas conscients. Puis il y en a qui développent ces semences de résurrection dans le monde, partout. La fraternité que nous voyons. Et bien, à nous de prendre ça et de dire merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, priez pour moi.
Merci pour vous.
Encore une fois, si j'ai deux livres, si quelqu'un souhaitait, un gros et un petit.